Pauline Roche et Martin Lange autour de moi. On jette d'abord un œil aux unes de vos journaux et un air de campagne électorale en ce moment. Emmanuel Macron est attendu dans le Lot, la France en direct, titre La Dépêche du Midi. Le chef de l'État va y passer 2 jours pour prendre le pouls. Le pari de la campagne permanente, écrit Le Figaro à la une. Avant la présidentielle, Macron repart à la conquête du pays. Avant la présidentielle, il y a d'abord les régionales et les départementales à la fin du mois. Des élections sous le poids du Covid, c'est le titre de l'Union de Reims, avec des bureaux de vote adaptés et un protocole sanitaire lourd, notamment pour les assesseurs. Après la traque d'un forcené en Dordogne pendant 36 heures, aujourd'hui en France raconte la loi des séries, cette série de faits divers, singuliers et ultra-violents. Et Libération s'intéresse ce matin à la republication de Mein Kampf par l'éditeur Fayard. Les mots pour le pire, c'est le titre de l'UB. Et puis les sports avec Didier Deschamps, dont vous lirez les interviews dans la presse régionale aujourd'hui, dans la Provence, dans Midi Libre, dans le Télégramme, dans le Dauphiné Libéré, en pleine préparation pour l'Euro. Le sélectionneur estime que les Bleus sont les meilleurs sur le papier. Voilà, reste à être les meilleurs sur le terrain. Évidemment.
Oui, c'est plus important.
L'Euro qui commence dans 10 jours maintenant. Voici les 3 histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Ombline, on commence avec vous et donc avec la fête des voisins. Alors ça aurait dû avoir lieu, la fête des voisins, vendredi. Elle a été repoussée finalement, cette fête des voisins. Ce sera en septembre.
Oui, c'est bien qu'elle ait lieu déjà. C'est toujours important qu'elle ne soit pas totalement annulée. Alors est-ce que vous êtes plutôt du genre à arroser les plantes de la petite dame du dessous ou vous attendez derrière votre porte avant de sortir de chez vous si vous entendez du bruit dans la cage d'escalier? Libération nous parle d'une récente enquête de l'Institut National des Études Démographiques et qui nous dit que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la nature des relations avec nos voisins n'a pas vraiment changé depuis les années 80.
Ah oui.
Même entente. Même conflit,
c'est ça.
Pour le meilleur et pour le pire. L'inégalité réside en fait entre les catégories sociales. Plus le niveau de diplôme et les revenus sont élevés, plus on voisine. Si on est propriétaire de son logement et parent trentenaire, alors là on voisine avec plaisir.
Ah oui.
Libé est allé sur le terrain dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, qui n'échappe pas à la gentrification. On se loge dans des lofts, dans des ateliers d'artistes. Les bobos ont colonisé le plateau, dit un Croix-Roussien. Immersion donc dans un apéro escalier. Chacun son verre, chacun son palier. Le confinement, il y a un an, a resserré les liens. Le groupe WhatsApp dans cet immeuble a été réactivé et l'entraide est l'un des principaux mots d'ordre. Ce genre de situation et de niveau de relation se retrouve dans d'autres copros, les copros finalement les plus aisés. En revanche, à l'extérieur, sur les places et dans les squares, au lieu de mixité sociale, la crise a opéré un tri. Dans les immeubles où les habitants ont des salaires plus modestes, eh bien les relations, elles, se distendent. Un bonjour, bonsoir, bien urbain, c'est tout. Le Covid a eu l'effet inverse. Ici, on bavarde moins. Vivement la prochaine fête des voisins en septembre pour établir ou consolider les rapports humains. Plus la position sociale est élevée, plus on voisine, c'est dans Libération.
D'accord, j'aurais pas dit forcément ça.
Et voilà.
C'est vrai que plus la position sociale est élevée, plus on est peut-être moins à la maison, plus on a moins l'occasion de se croiser. C'est vrai qu'en ville,
c'est vrai.
Zéro relation parfois.
Et bien finalement, avec notre voisin de palier, ça fonctionne bien.
Voilà, parlez à vos voisins.
C'est important.
Et buvez des coups au mois de septembre.
Voilà, c'est encore
autre
plus
sujet ce matin, un géant de l'agroalimentaire qui vacille après des révélations de presse. C'est le groupe Nestlé, ébranlé par un article du Financial Times, le quotidien économique britannique, qui a révélé un document interne au groupe, une présentation dans laquelle Nestlé reconnaît lui-même que plus de 60%, les 2/3 de ses produits, ne sont pas bons pour la santé. C'est un document interne qui le dit. Certaines de nos catégories ne seront jamais saines. Voilà ce qu'on peut lire dans ce document où il est indiqué que 37% seulement des produits et boissons du groupe Nestlé obtiennent une note suffisante. Alors ça ne prend pas en compte tous les produits Nestlé, ça ne prend pas en compte l'alimentation infantile par exemple ou l'alimentation D'accord. pour les animaux, mais bon, en gros, tout le reste de boissons ou de produits. Alors on connaît les messages, le trop sucré, le trop gras, le trop salé, on connaît les avertissements souvent répétés à propos des produits industriels. Mais cette révélation d'un constat fait en interne, à l'intérieur du groupe, a poussé Nestlé à communiquer. Et le groupe suisse réplique en annonçant qu'il travaille à une nouvelle stratégie concernant ses produits alimentaires. Les dirigeants du groupe sont en train d'examiner quels nouveaux engagements prendre sur la nutrition et sur la santé. Ils dévoileront un nouveau plan cette année. Voilà ce qui est annoncé et ce qui est précisé à la suite de cet article du Financial Times. Un repositionnement, donc, sur les grandes tendances de consommation, prise en compte du Nutri-Score, par exemple. Et on sait que les consommateurs eux-mêmes évoluent dans leurs achats en ce moment. Par exemple, ils se détournent des pizzas surgelées, des confiseries ou des boissons trop sucrées. Voilà pour ces révélations donc, du Financial Times que vous retrouvez en français, notamment sur le site d'Europe1.fr. Martin, on va terminer avec vous et avec un peu de nostalgie ce matin.
Exactement. Sébastien Ombline, est-ce que vous avez toujours au grenier ou à la cave votre vieille télévision cathodique ?
Non, je crois qu'elle est partie à la benne.
C'est un peu encombrant.
C'est énorme. Hein.
C'est exactement. C'est celle qui pesait environ 150 kilos pour un écran à peine plus grand qu'un smartphone.
Il faut quatre voisins pour la déplacer.
Il faut un meuble épais. Enfin, il y a de la profondeur.
On
n'est pas contre le mur.
Alors, si par hasard vous remettez la main dessus, dépêchez-vous d'aller la vendre sur Internet, parce que figurez-vous que ces vieilles télés se vendent à prix d'or. Et oui, c'est la dernière tendance vintage après le vinyle qui a connu un retour fracassant depuis une dizaine d'années.
C'est pas la même qualité quand même.
Après, la cassette audio aussi qui revient à la mode, c'est au tour de votre vieille télé donc.
Alors comment on explique ce retour en grâce, Martin, de ces écrans très lourds, de mauvaise qualité?
Mais c'est ça, en plus c'est la qualité
plus petit. Pourquoi?
Déjà, la mode ne rime pas toujours avec pratique. Un vinyle, c'est quand même nettement moins logeable qu'un lecteur MP3.
Mais il y a un charme, il y a quelque chose.
Exactement.
Oui, mais le son est bon. La qualité est bonne.
Alors plus sérieusement, ce retour des vieilles télé, on le doit à des gamers, des joueurs de jeux vidéo. On les appelle les adeptes du rétro gaming. Eux aussi sont des grands nostalgiques et ils se sont remis à jouer avec les consoles de leur enfance, les Nintendo 64, les Sega et autres PlayStation 1. Mais leur vieille console...
Mega Drive.
Ouais, c'est plus votre génération que la mienne, je dois dire, Sébastien. Mais leurs vieilles consoles ne sont pas adaptées aux écrans modernes. La qualité est nettement meilleure sur un écran cathodique. C'est donc ces gamers qui ont relancé l'intérêt pour les vieilles télé et ils ont lancé une mode. Il n'y a pas si longtemps, sur eBay, un vieil écran Sony s'est vendu 3 900 $. Pour ce prix, vous vous offrirez largement un écran plat dernière génération. Alors j'ai été faire un petit tour sur Internet et effectivement, vous trouvez des écrans d'occasion à près de 500 €. Ça y est, les écrans cathodiques redeviennent à la mode, c'est à lire sur le site.
Avec la bonne vieille prise Péritel.
Oui, mais c'est vrai que Street Fighter sur un tube cathodique, tout de suite, ça a beaucoup de charme.
Évidemment. Et puis, quitte à jouer sur un vieux jeu, autant jouer sur un vieil écran. Parce que de toute façon, vous avez beau le mettre sur votre plasma,
ça ne va pas mieux marcher.
Hein. Non, effectivement. Les tubes cathodiques, bon, faut avoir la place, mais ça peut avoir du charme, une petite pièce années 90 comme ça, avec des vieux écrans. Et voilà.
Oui, des vieux postes.
Voilà.
Nostalgie. Surprise.
Retour vers le futur.